ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent.
Bonsoir, Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone. Pas de soleil dans le ciel, mais la lune dans vos oreilles. 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone, c'est aussi un numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023 depuis Genève, 033 depuis Versoix. Et puis c'est une adresse, onde femme sur Radio Zone 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Alors au programme de la Lune ce soir, eh bien dans quelques instants c'est les informels, les nouvelles sur Radio Pleine Lune, suivi de quelques rendez-vous. Malheureusement pas de memento, pas de coup de cœur de Marjolaine ce soir, car Marjolaine est au fond du lit, eh oui. Mais beaucoup de bises à Marjolaine, elle reviendra très vite sur 93.8 MHz. Dans quelques instants, les nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, onde femme, Radio Zone, nos nouvelles. Invitée par le groupe Pour une Suisse sans armée, la sociologue et féministe André Michel est venue à une conférence, un cycle de conférences sur le thème de la paix. Elle a entre autres dénoncé les Nations Unies qui, pour elle, sont dominées par les plus gros fabricants d'armes de la planète. Dans cette affaire des fabricants d'armes et des livraisons d'armes, la France joue un rôle essentiel. La politique étrangère a toujours été décidée par le complexe militaro-industriel, dit André Michel. Ceux qui dirigent l'armée, la politique et l'industrie sortent des mêmes grandes écoles. L'école polytechnique en particulier, qui forme la plupart des cadres, 60% des cadres de l'armée et de l'industrie, sont des polytechniciens. Le budget de la défense est en France le plus élevé, un des plus élevés. Il est même plus élevé que le budget de l'éducation nationale. Suivi par les États-Unis, qui, pour maintenir leur industrie militaire, les Américains, doivent augmenter les exportations d'armes. Ainsi, pour les grandes firmes militaires comme Lockheed, la production militaire destinée à l'exportation est passée de 17% à 40% en 3 ou 4 ans. C'est pareil pour tous les pays occidentaux, ils exportent maintenant massivement vers le Moyen-Orient et les pays du tiers-monde. Au Soudan, en Somalie, au Rwanda, en ex-Yougoslavie, c'est avec ces armes-là qu'on se bat, qu'on s'entretue. Les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne produisent la quasi-totalité des armes. Seuls 2 ou 3% des armements sont fabriqués dans le tiers-monde, en Chine en particulier. Quant à l'ONU, pour André Michel, elle est chapeautée par le Conseil de sécurité, qui est quelque chose qu'il faudrait supprimer, car ce Conseil est entre les mains des 5 grandes puissances qui ont droit de veto, les USA, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne. Or, il y a une contradiction, d'après André Michel, énorme là. On donne le plus de pouvoir à 5 puissances qui exercent le terrorisme nucléaire sur le restant de la planète et qui ont la quasi-exclusivité du commerce mondial des armes puisqu'ils produisent 87%. Et il reste tous ces pays restent des puissances impérialistes, même si certaines ont perdu leur empire. Ces grandes puissances n'ont qu'un seul but, plus de pouvoir politique, économique et militaire. Ainsi, l'ONU joue-t-elle les figurants pour abriter les calculs sordides de ces pays qui pratiquent une politique du XIXe siècle, celle du partage d'influence entre les grandes puissances. Si la volonté de faire respecter le droit international motivait vraiment les grandes puissances, dit André Michel, il n'y aurait pas de poids de mesure. Il y a des peuples qu'on laisse assassiner, comme les Palestiniens pendant 40 ans ou les Bosniaques aujourd'hui, tandis qu'on écrase les Irakiens pour un conflit de frontières qui ne concernait pas le reste du monde. À cela, continue André Michel, on doit opposer l'idée que la sécurité ne découle pas du surarmement, mais de la justice, que chacun a un toit, un travail à manger, un droit à l'éducation et à la santé, conformément d'ailleurs à la Déclaration des droits de l'homme. Et, continue André Michel, je crois que les femmes ont là un rôle à jouer. Les statistiques montrent que dans les pays occidentaux, elles sont nettement moins favorables que les hommes au règlement des conflits par les armes. Je ne pense pas que cette différence soit liée à la nature biologique, mais à une prise de conscience. Les femmes ont conquis le droit de vote, le droit à l'éducation, le droit à l'égalité dans la famille, le droit au planning familial, sans verser une goutte de sang. L'Organisation mondiale de la santé, qui vient de terminer sa 47e conférence mondiale, a décidé d'intensifier sa lutte contre les mutilations sexuelles dont sont victimes les femmes. De 85 à 114 millions de femmes et de jeunes filles dans le monde ont subi des ablations sexuelles, indique ce rapport. Les mutilations sont à l'origine d'une surmortalité et de nombreuses maladies qui concernent 26 pays africains, mais également certains pays d'Asie et de manière croissante l'Europe, le Canada, l'Australie et les États-Unis, où elles sont pratiquées dans des communautés immigrées. En France, le salaire des femmes est très à la traîne. L'écart atteint 38% dans la région parisienne et presque 30% en province, et quel que soit le métier. Le sexisme a encore donc des beaux jours devant lui. Une étude de la Direction régionale du travail et de l'emploi vient de révéler des chiffres assez durs pour l'année 1992. Le salaire des femmes est en moyenne inférieur de 38% à celui des hommes en Île-de-France, et cet écart est de presque 30% en province. En données brutes, cela donne 13 783 francs par mois pour les hommes et 9 975 francs pour les femmes. Bien sûr, c'est un salaire moyen, mais les discriminations apparaissent massivement. Les Françaises payées au SMIC sont presque trois fois plus nombreuses que les hommes. En région parisienne, elle ne représente qu'un peu plus du tiers des cadres des professions intellectuelles. Compte tenu qu'il y a autant de femmes et d'hommes à la naissance, qu'elles accèdent autant que leurs homologues masculins à des diplômes qualifiants, ces deux données montrent la ségrégation dont elles sont l'objet pendant leur vie professionnelle. Mais ce n'est pas tout. L'enquête de la Direction du Travail montre que l'écart des salaires entre les deux sexes se présente dans toutes les couches du salariat. La différence est même plus nette chez les cadres supérieurs. Toujours en France, journée d'action aujourd'hui dans les hôpitaux pour les infirmiers et infirmières. Cette fois, c'est le syndicat Force ouvrière qui appelle à la grève, appuyé localement par le syndicat de la SCGT. Ni les rallonges budgétaires destinées à financer les revalorisations prévues en août 1993, ni les paroles apaisantes du ministre des Affaires sociales n'auront suffi à ramener le calme dans les hôpitaux. Après la manifestation organisée le 10 mai par les comités et la coordination nationale infirmière, qui sont des syndicats minoritaires dans la profession, c'est au tour donc des grandes centrales de donner de la voix. La CGT, elle, appelle à son tour à une manifestation pour jeudi prochain. Pas question pour l'ensemble des syndicats d'accepter des restructurations hospitalières qui se traduiront par la fermeture ou la reconversion de 20 000 lits jugés inutiles. Le malaise hospitalier, dû en partie aux incertitudes qui pèsent sur l'avenir de certains établissements, est encore accentué par l'étroitesse des budgets. Le pape dénonce le contrôle des naissances. Encore une fois, un document du Vatican, publié dernièrement, condamne les campagnes en faveur du contrôle des naissances et estime que les organisations qui mènent ces campagnes, je cite, « veulent compromettre délibérément les chrétiens par des moyens illégaux ». Vous avez compris, ils veulent empêcher les chrétiens de naître. Leur véritable objectif, selon le pape, n'est pas de ralentir l'explosion démographique, mais de promouvoir une idéologie opposée à la vie et pourquoi pas de supprimer des chrétiens. Ça doit tous être des athées ou même des musulmans. Ce document de 70 pages est destiné aux évêques, mais il paraît à une date opportune, a estimé le Vatican, puisque s'ouvrira en septembre une conférence des Nations Unies au Caire sur le problème de la population. Le pape Jean-Paul II et le Vatican ont à plusieurs reprises appelé les participants à cette conférence à exclure l'avortement comme méthode de contrôle des naissances. Mais comme la contraception est aussi interdite, ça rend les choses très faciles. Depuis le mois de mars, le Saint-Siège a mené une campagne directe, en tout cas pour s'opposer à cette conférence du Caire. Au Japon, le ministère du Travail a préparé une cassette vidéo de 24 minutes pour expliquer aux employés japonais qu'est-ce que c'est que le harcèlement sexuel. Le même ministre avait annoncé une première définition officielle du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui invite d'ailleurs les femmes à exprimer haut et fort leur désaccord lorsque des incidents de ce genre se produisent. Cette définition retient notamment comme un cas de harcèlement sexuel les représailles qui pourraient découler d'un refus à des avances faites dans le cadre du travail. Une enquête réalisée l'année dernière avait fait ressortir le fait qu'une femme sur quatre affirme avoir été victime d'expériences déplaisantes sur leur lieu de travail, que ce soit des blagues à connotation sexuelle, des questions embarrassantes ou des attouchements. En Suisse, des femmes politiciennes se motivent pour dire non à la politique de la langue de bois. Invitée par Ruth Dreyfus, conseillère fédérale, une trentaine de femmes, membres de gouvernements cantonaux et d'exécutifs communaux, ont discuté hier du rôle particulier qu'elles ont à jouer en politique, notamment celui de combattre la langue de bois. Le but premier de cette rencontre était de créer un réseau de contacts entre les politiciennes, de discuter de leur expérience mutuelle, parfois toute fraîche, par exemple pour les deux nouvelles élues au Conseil d'État à Appenzell-Ois. Ruth Dreyfus n'a pas manqué non plus de souligner la nécessité de rendre la politique suisse plus transparente. Dans des futures rencontres, les politiciennes entendent travailler ensemble pour trouver de nouvelles formes de communication politique. Une préoccupation qui ne peut donc être qu'exclusivement féminine. Bien sûr, les hommes sont aussi concernés, mais comme le dit Ruth Dreyfus, si les femmes refusent ce manque de transparence, c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas eu la même socialisation politique. Il va de soi que les politiciens auraient tout intérêt à réfléchir aussi à la crise de communication qui existe entre les élus et la base. D'ailleurs, en parlant de transparence, on a bien sûr évoqué le cas de cette fameuse lettre ouverte de Madame Ruth Dreyfus, puisqu'elle avait donc envoyé une lettre pour protester, enfin pour s'inquiéter du projet de relever l'âge de la retraite des femmes à 64 ans. Le Conseil fédéral, très choqué, a désavoué Ruth Dreyfus poliment mais fermement. Cette lettre ouverte a irrité l'exécutif, mais qui, lui, bien sûr, ne s'oppose pas à l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. L'augmentation de 62 ans à 64 ans de l'âge de la retraite des femmes, la majorité masculine et bourgeoise du Conseil fédéral est pour et a désavoué courtoisement, fermement, la chef du département de l'intérieur, Ruth Dreyfus, la socialiste genevoise, dans une lettre ouverte publiée la semaine dernière, répondait publiquement aux craintes de nombreuses citoyennes et de nombreux citoyens sur l'avenir de l'AVS, entre autres. Elle disait « L'élévation de l'âge de la retraite des femmes à 64 ans ne s'impose pas. Elle aurait pour conséquence de mettre exclusivement à la charge des femmes le financement de la 10e révision de l'AVS. » Une grande manifestation, je vous rappelle, est annoncée le 1er juin. Christiane Brunner sera au premier rang et un référendum contre la 10e révision de l'AVS est programmé. La colère gronde. Le gouvernement de l'ombre échoue, mais la lutte des femmes continue. Un projet de conseil fédéral au féminin est mort, faute de combattantes, mais nouveau défi des initiatrices, 100 femmes au Conseil national en 1995. Ce projet de gouvernement de l'ombre était né autour de la toute la controverse autour de la non-élection de Christian Brunner et de l'élection de Ruud Dreyfus. Il était apparu important de constituer la base d'une politique féminine en mettant sur pied un conseil fédéral uniquement féminin. Ce projet semble aujourd'hui prématuré puisque ce projet d'alternative féminine au Conseil fédéral est abandonné. Les parlementaires du PRD et de l'UDC l'ont lâché en décembre dernier. L'idée de créer une plateforme politique hors parti n'était plus réalisable, ont déclaré les promotrices du projet à Zurich. La création d'un gouvernement de l'ombre hors parti avait été lancée donc en réaction à la non-élection de Christian Brunner. Le projet a échoué sur la structure des partis. Selon ses promotrices, la solidarité partisane est supérieure à la solidarité féminine en Suisse, ont-elles constaté. À leur avis encore, trop peu nombreuses au Parlement, les femmes sont trop dépendantes de leur parti. Les parlementaires de droite se sont retirées du gouvernement de l'ombre. Elles ont dit préférer travailler dans le cadre existant, indiquant ainsi ne pas voir comment le projet se développerait. Les promotrices du Conseil fédéral féminin ont aussi déclaré avoir sous-estimé l'occupation des parlementaires. Et bien sûr, à cela s'ajoute un manque de financement. Il aurait fallu quelque 250 000 francs par an. L'objectif de ce Parlement de l'ombre était de créer un réseau et un pôle de sensibilité féminine sur les grands sujets traités par le Conseil fédéral. Les promotrices estiment que leur projet vient trop tôt dans les conditions politiques actuelles. À la base, cependant, les femmes bougent et pour briser la carapace bernoise, elles ont lancé le projet « 100 femmes » au Conseil national en 1995. Pour les élections fédérales de l'année prochaine, les partis doivent aussi ainsi présenter au moins 50% de femmes sur leur liste. Sinon, ils se verront opposer des listes féminines suprapartisanes. Des comités cantonaux sont mis sur pied. Toujours en Suisse, projet de pilote à la prison de femmes de Hindelbank, on prévoit de distribuer des seringues aux détenus, c'est même une première européenne. Les femmes détenues de la prison de Hindelbank pourront se procurer des seringues stériles destinées à enrayer la transmission du virus du sida. Il s'agit là d'un projet pilote qui durera un an. Un sondage mené en 91 dans les établissements pénitentiaires pour femmes de Hindelbank avait montré que presque toutes les détenues continuaient à se piquer en prison et qu'elles avaient consommé des drogues en ayant échangé les seringues avec d'autres détenus. Le canton de Berne fait œuvre de pionnier. Le pénitencier de Hindelbank est la première institution en Suisse et en Europe où la prévention du sida comporte également la remise de seringues stériles. À Genève, l'Organisation des Nations Unies sanctionne le chef du protocole pour harcèlement sexuel et brimade contre ses subordonnés. Ce haut fonctionnaire de l'ONU, en poste à Genève depuis 25 ans, s'est mal conduit avec ses collègues. Il a écopé de 6 semaines sans solde. C'est donc au Palais des Nations à Genève que des femmes se plaignent d'avoir souffert pendant des mois et des années du harcèlement et des grossièretés de ce monsieur. Il s'agit du fonctionnaire le mieux placé pour connaître les règles et la bienséance et la courtoisie puisqu'il représente les Nations Unies à Genève depuis 1986. Son image apparaît sur les télévisions de tous les pays lorsqu'il accompagne les grands de ce monde en visite à Genève. Le chef du protocole du Palais des Nations vient néanmoins d'être sanctionné par le secrétaire général de l'ONU, M. Boutros-Ghali. Il me saisissait par le corps, il me serrait contre lui, il essayait de m'embrasser, il m'ordonnait sans cesse de ne jamais dire non, confie une secrétaire encore effrayée par ses souvenirs. Pendant plus d'un an, je suis rentrée quasiment tous les soirs en larmes, toute ma vie privée en a souffert. Malgré sa rage, l'employé tient à ne pas déformer la réalité. Il ne m'a jamais frappée, bien sûr, mais parfois il me posait un coup de papier sur la carotide pour me faire comprendre le fond de sa pensée et je ne parle pas des insultes. Tous les témoins qui ont accepté de parler prennent des précautions. Ils redoutent les représailles de ce monsieur et même de l'administration, puisque après des mois de cauchemars au service de ce monsieur, le règlement de l'ONU, par ailleurs, interdit aux collaborateurs de parler, de témoigner en dehors de l'organisation. Ils doivent se contenter de présenter les faits au comité paritaire de discipline. Celui-ci a commencé l'audition de toutes les parties en août dernier. Une dizaine de personnes en tout, la même instance, a ensuite recommandé au secrétaire général une suspension de l'accusé pendant plusieurs mois. Boutros-Ghali a rendu son verdict à New York au début de l'année, 6 semaines sans solde. Dans son bureau, bien sûr, le chef du protocole dément en bloc cette information. Quant à la directrice de l'information de l'ONU à Genève et le secrétaire du comité disciplinaire, ils n'affirment ni ne confirment la sanction. Les collègues se révoltent. Ça fait mal de l'entendre dire que nous fabulons. Nos mutations nous ont souvent causé des diminutions de salaire et la sanction est si légère. Quoi qu'en disent certains, ces femmes ne sont en aucun cas des menteuses, affirme un ex-chef de cabinet. Nous voulons briser le silence qui ne profite qu'aux coupables. La décision de Boutros-Boutros-Ghali doit être présentée publiquement et officiellement, estime un collaborateur. Toujours à Genève, la chanteuse Barbara Hendricks milite contre la violence conjugale. Débat chic au Métropole, Solidarité Femmes a récolté des points avec la complicité de la célèbre cantatrice noire. L'objectif de cette manifestation consistait bien sûr à faire connaître le travail de l'association, aider et soutenir les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants, mais également à récolter des fonds puisque les demandes d'aide croissent de 20 à 30%. Les subventions données par la ville et les communes restent les mêmes et peut-être même seront-elles réduites. Pour sa récolte de fonds, Solidarité s'est acquis le soutien de la prestigieuse Barbara Hendricks qui dit « J'ai vécu enfant la lutte pour les droits civiques, puis participé à la cause féministe, milité contre la guerre du Vietnam, sensibilisé à la cause humanitaire. La cantatrice noire offre volontiers l'appui de sa notoriété à des organisations humanitaires. Elle a parlé avec beaucoup de sentiments de la violence et de l'horreur que représente la violence domestique. » D'ailleurs, toujours sur le problème de la violence, un fait divers qui montre à quel point elle peut aller. Une jeune femme est poignardée par son époux en pleine rue à Honay. Il s'agit d'une jeune Albanaise qui avait fui le domicile conjugal, qui s'était réfugiée dans un foyer à Honay, un lieu destiné à accueillir les femmes qui traversent une période difficile. Elle se faisait raccompagner par ses amis dans ce foyer où elle vivait cloîtrée depuis une dizaine de jours avec sa petite fille. À son arrivée, elle ne pouvait même plus ouvrir la mâchoire tellement son mari lui avait donné de coups et... même frappée avec un couteau. Au moment où elle sort de la voiture, le mari se précipite sur la femme et il lui assène 6 coups de couteau dans le ventre. Elle est toujours entre la vie et la mort. L'homme, quant à lui, s'est enfui. Il n'a pas toujours été intercepté. Les pensionnaires du foyer sont en colère, d'autant que la semaine dernière, une ancienne du foyer a déjà été agressée à coups de couteau et de marteau au Grand Lancy. Autre source de colère, le laxisme des autorités face aux violences conjugales. Pour terminer ce journal, quelques rendez-vous. Vous avez tout juste le temps de courir encore à la manifestation de la coordination des jeunes pour la dignité humaine qui a débuté à 18h30 à la Place Neuve. Peut-être que les discours viennent de terminer. Les jeunes manifestent contre l'extrême droite et pour une dignité humaine, car, disent-ils, on ne marchande pas avec la dignité humaine. Cette coordination des jeunes, qui a été mise en place contre l'existence d'une librairie d'extrême droite nazie, Excalibur, il s'agit de collégiens, des élèves de l'école de culture générale, des apprentis qui ont été choqués de la possibilité de mener ouvertement un commerce basé sur la ségrégation. Ils avaient prévu une action de rue, mais entre-temps, le magasin a déjà été dévasté. Aujourd'hui, ils s'organisent contre la loi sur les contraintes et ils proposent aussi de se mobiliser pour soutenir les lois antiracistes qui seront votées le 25 septembre. La coordination des jeunes s'engage aussi pour récolter des signatures contre cette loi sur les contraintes, organisera d'autres des cycles de conférences et de débats, mais aujourd'hui à 18h30, elle organise une manifestation à la Place Neuve. Ils y sont peut-être encore. Quelques rendez-vous encore. Vous pouvez, ce week-end 21-22 mai, un stage est organisé sur le thème « Reconnaître et apprivoiser les émotions », stage animé par Elisabeth Ripoll et Christine Muller, spécialistes en communication et animatrices en développement personnel. Ça se passe à Lausanne. Le numéro de téléphone, c'est le 021-882-1818. Je répète, 021-882-1818. C'est donc le week-end du 21-22 mai. Le samedi 28 mai, vous pouvez aller au Centre Femmes Nathalie Bernet, à la rue Péchier, où à 18h aura lieu le vernissage d'une exposition présentation débat sur le thème « La Grimoire, un journal lesbienne intergalactique » par Nadine Laroche, coordinatrice, éditrice, créatrice, avec vente extraordinaire de « La Grimoire ». Un prix de 20 francs et un quart de cette somme iront pour des projets de femmes en Yougoslavie. L'exposition qui démarre le 28 mai aura lieu jusqu'au 18 juin et c'est donc au Centre Femmes Nathalie Barnet, 30 avenue Péchier. Le autre débat sur le thème de quelle information pour quel développement, c'est le mardi 31 mai avec Daniel Vermus, journaliste à Info Sud. C'est les magasins du Monde qui organisent ces débats. Il aura lieu au restaurant Les Miroirs, 7 du rue des Grottes à 20h15, le mardi 31 mai. Et puis, j'avais encore oublié ça, une grande rencontre avec le linguiste et le dissident intellectuel le plus éminent de notre temps, Noam Chomsky, 26 mai, qui vous viendra parler sur le thème démocratie et droits de l'homme dans le nouvel ordre mondial, sur le thème Bringing the Third World Home. Pourquoi pas amener le tiers monde à la maison. C'est donc Noam Chomsky qui parlera en anglais le jeudi 26 mai à 20h. Ça se passe au CERN dans l'aula principale. Vous pouvez prendre le bus numéro 15. C'est la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté qui organise cette conférence. Vous pouvez vous renseigner au 733-61-75 à Genève. Je répète, 733-61-75 à Genève. Et puis, j'aimerais juste terminer pour vous dire qu'une exposition a lieu au musée d'ethnographie qui met en scène le périple d'une baronne en Amazonie. C'est divertissant, scientifique et c'est vraiment une exposition originale doublée d'un ouvrage témoignage sur la vie de le voyage en 1903 de Nadine Longuinine, épouse de Conrad de Mayendorf qui partira en voyage de noces en Amérique du Sud. Elle traversera l'Amazonie, elle rapportera environ 200 photographies que vous pouvez voir au musée d'ethnographie. Voilà, nos informations sont terminées. À la semaine prochaine et restez à l'écoute. Somebody come and carry me to the big sugar.